prochains jours, Pascal, les décisions de Christine Fréchette.
Puis j'allais te dire, on va aussi vérifier le prix à l'essence pour notre voiture. Tu sais, toi, tu parlais de ta minivan. Combien t'as dit que ça te coûtait actuellement?
134 $, puis ça m'en coûtait 96 avant le début du conflit.
Fait que tu t'en souviens. 96 à 134. Combien de fois par semaine? Une fois?
Ben c'était une fois, parce que j'avais du hockey, là. Je vais peut-être m'en tirer une fois aux semaines et demie.
OK. Allons-y avec 134 par semaine. On arrondit, OK. Puis on s'en reparle dans deux semaines. Le temps que ça s'ajuste, le temps que ça apparaisse. On va faire un genre de décompte. Puis avec les auditeurs, là, 88-971-1021, ça vous coûte combien en ce moment, là, mettre de l'essence dans votre voiture? Êtes-vous capable de faire un comparable avec avant la guerre qui a été déclarée au Moyen-Orient? Est-ce que ça va nous faire sauver de l'argent, oui ou non? Est-ce qu'on va le voir sur l'épicerie aussi, où il n'y a pas grand-chose qui va bouger au niveau des commerçants? Ils en ont perdu de l'argent, eux aussi. Ouais. Vont-tu vouloir le rattraper?
C'est ce qu'on va valider dans les prochaines semaines, c'est certain.
À Boulevard 102. Jusqu'à 14h, on en jase.
Vous êtes toujours à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission On en jase. Je veux prendre le temps avec vous, dans l'émission maintenant, de parler d'enjeux de société et de sujets d'actualité qui m'intéressent particulièrement. Et aujourd'hui, j'ai été très touché par un texte de Mylène Moisan dans le journal Le Soleil, qui raconte un jeune homme qui sortait des centres d'accueil. Donc, il avait été placé en centre d'accueil à 14 ans. Il est sorti à 18 ans, comme plusieurs jeunes de centre d'accueil à 18 ans. T'es rendu considéré comme un adulte. Donc, on met tes choses dans un sac de vidange, puis on t'envoie vivre ta vie d'adulte. Pour moi, Pascal, ça n'a jamais fait de sens. On a reçu régulièrement l'émission du matin, Nancy Audet, qui nous en parle, que crée justement un organisme pour prendre soin de ces jeunes-là issus de la...
Jusqu'à 14h, on en jase.
J'avais oublié de mettre un stop. Donc, issus de la DPJ. Et également, on a déjà reçu un enfant qui provenait de la DPJ, qui était parti avec ses sacs de vidange. Et c'était une campagne de financement. Et c'était plus qu'une campagne de financement. C'était une campagne « Apporte ton sac en centre jeunesse » pour que quand le jeune va partir, au moins, il va avoir un beau sac sport. Il n'y aura pas des sacs de poubelle. Parce qu'on s'entend, là, si... t'avais à partir avec des sacs de poubelle.
Déjà, la honte est dans ton camp. Hein?
C'est épouvantable.
Alors,
tu t'en
imagine
vas où?
Encore plus. Puis, tu sais, oui, puis le coup d'œil que ça donne, on parle du premier jugement. Si ça va chez un employeur, il n'y a rien. Il arrive avec ça. Il ne sait pas où les déposer. Il y a beaucoup de choses en arrière de ça. C'est pas juste une image.
Jamais vécu en logement. Pas eu des parents qui ont appris à cuisiner.
Pas de structure.
Pas de structure. Pas organisé. Puis
des
là, ben,
des
on dit,
choses émotionnelles peut-être pas corrigées aussi. Tu sais, ça vient des fois avec des problèmes psychologiques parce que justement, tu n'as pas eu cette enfance avec le nid douillet.
Puis quand on regarde également au niveau d'Éric Boulay, qu'on a reçu en entrevue le matin dernièrement, il nous dit qu'au niveau de l'Aube-Rivière, c'est 70 % des bénéficiaires qui sont là pour une première fois. Et parmi ça, ben, les jeunes âgés de 18 et 25 ans sont en très grand nombre. Fait que c'est ce qui m'amène à dire que la DPJ ne fait pas du tout son travail avec ces jeunes-là. Puis j'appelle ça, moi, on est une usine à itinérance. Puis là, quand on se dit « Hey, l'itinérance est en hausse, comment ça, qu'est-ce qui se passe? » Ben c'est un point majeur, ça, parce que, Éric nous le disait encore vendredi dernier, il en sort plein de l'itinérance. Il en renvoie plein en logement, que ce soit avec le projet Porte-Clé ou le projet Prisme. Mais il en rentre plus que j'en sors.
Puis c'est là où c'est important d'aller voir c'est quoi l'épicentre du problème, la base du problème.
Exactement, et travailler en prévention avant tout et non pas toujours en correction.
Mais as-tu espoir de ça? Parce que les dernières conversations qu'on a eues sur les changements au sein de la DPJ puis la façon dont on voit qu'il y a plein de bonne foi. T'sais, on peut pas être contre la vertu. Mais il manquait de critères d'application, il manquait de clarté quand on posait les questions.
J'ai pas du tout espoir à l'heure actuelle. Je trouve que la DPJ est une organisation qui est très fermée sur ses propres pratiques et qui prend pas soin d'étudier adéquatement les recommandations de l'extérieur. Tu vois, on a juste à prendre le rapport de la commissaire Laurent. Bon, c'était sorti l'an passé. C'était Martine Desjardins à la tête de ce groupe de chercheurs-là. Il y avait à peine 20 % des recommandations 5 ans plus tard qui avaient été mise en place du côté de la DPJ. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à en parler des médias et il faut continuer à soulever cette problématique-là parce que, je le répète, c'est rien contre les gens qui travaillent à la DPJ. J'ai des amis qui travaillent à la DPJ, je les adore, font un travail exceptionnel, mais l'organisation de la DPJ à l'heure actuelle, c'est une usine à itinérance. C'est eux autres qui envoient le monde en majorité dans la rue. Puis c'est ce qui fait en sorte que la crise de l'itinérance est incontrôlable actuellement. C'est un facteur, selon moi, très prédominant. On a bien beau me parler de crise du logement puis de hausse du coût de la vie, mais nos jeunes qui sortent d'un centre jeunesse, on les pogne, puis excusez-moi l'expression, on les calisse dans la rue, puis on oublie qu'ils sont là.
C'est pas facile pour les intervenants. Hein?
Non, du tout.
Ils vivent encore plus froidement et difficilement
ben oui.
que nous.
Hey, ils ont créé un lien pendant 4-5 ans avec ces jeunes-là, puis les disent, ben, c'est correct, t'as eu 18 ans, prends tes affaires, là, tes deux sacs de vidange, je peux plus rien faire pour toi.
Puis eux, ils les connaissent. Ils savent, là, ils connaissent leurs démons, leurs difficultés, leurs défis.
Oh, émotionnellement, c'est très, très, très difficile. J'ai mis Mathias Turcotte sur le dossier, il est avec nous. Mathias, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Cool. Mathias, je l'ai mis sur le dossier, Pascal, parce que je voulais qu'il regarde. Y a-tu des alternatives ailleurs que dans notre petite ville de Québec sur lesquelles on pourrait s'inspirer pour faire en sorte que la fille qui va sortir de l'escale demain matin ou le gars qui va sortir du gouvernail demain matin avec ses sacs de vidange, il pourrait s'en aller en quelque part qui l'aiderait? Et Mathias, ça existe.
Ça va potentiellement exister. Là, je vais vous parler d'un projet qui pourrait être mis en place au cours des prochaines années à Montréal. Avant ça, Jeff, je veux revenir sur ton expression « usine à itinérance ». Puis le terme n'est pas exagéré. Je vais vous sortir quelques données concernant les jeunes de la DPJ qui vont vers l'itinérance. Le tiers des itinérants au Québec actuellement, sont d'anciens jeunes de la DPJ. Donc, un itinérant sur trois. Puis je vous apprends rien.
Aucun sens.
En vous disant que présentement, c'est pas le tiers des jeunes qui sont à la DPJ.
Hey, c'est-tu un constat d'échec de notre système, Pascal?
C'est une nouvelle en soi.
On est censé les aider, puis on en prend 33% puis on les pitche dans la rue.
Après qu'on se dit, il n'y a pas de lacune. Là,
ah, ou... épouvantable.
35 maintenant, d'autres statistiques, 35% des jeunes de la DPJ, donc encore une fois, on est sur un jeune sur trois de la DPJ qui est sans diplôme. Donc, on va s'entendre encore une fois, la majorité qui est sans diplôme se retrouve en situation d'itinérance avant l'âge de 21 ans. Donc, un jeune qui sort sur trois qui n'est pas diplômé, ben se ramasse dans la rue avant l'âge de 21 ans.
Aïe, aïe.
Puis là, on parle de diplôme secondaire.
Diplôme sans secondaire. Donc, vraiment, aucun diplôme. C'est 11% des diplômés qu'eux se retrouvent à la rue. Donc, on voit déjà
une bonne différence
lorsqu'ils réussissent à avoir un diplôme. Puis justement, je vais vous parler d'un projet Agora Déclic qui a été cofondé par Benoît Bernier, avec qui je me suis entretenu. C'est un projet d'hébergement pour 130 élèves de 18 ans de la DPJ. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner à leur sortie, justement, de la DPJ, dans leurs études, les loger et leur donner les ressources nécessaires à la fois en santé mentale et en éducation. Puis, justement, je me suis entretenu avec le cofondateur qui m'expliquait que la raison première qui l'a poussé à vouloir aller de l'avant avec un projet de ce type-là, c'est les nombreux constats d'échec de la société dans l'accompagnement des jeunes qui sortaient de la DPJ.
Notre projet, c'est le constat que ben, les ressources et les processus, autant au niveau des soins en santé mentale, de l'accompagnement psychosocial que de la scolarisation, ça ne correspond pas aux besoins de ces jeunes-là, puis le système les échappe. Ou on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui est en état de survie dans sa tête, qui a subi des traumatismes importants dont il ne s'est pas encore guéri, puisse avoir de la disponibilité pour quoi que ce soit qui ressemble à une insertion professionnelle, un retour à l'école ou un fonctionnement social qu'on va mettre en guillemets régulier. C'est pas possible.
C'est tellement bon ce qu'il explique. T'es, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui s'est fait battre pendant 5, 6, 7 ans par un père violent. Il se retrouve en centre d'accueil à 15 ans, essaye de se développer du mieux qu'il peut, a énormément de traumatismes. Il y a des éducateurs, des psychologues qui sont là pour l'aider. Puis à 18 ans, il perd tout ce filet social-là puis il se retrouve seul dans la rue. C'est sûr qu'il retourne pas aux études. C'est sûr qu'il n'est pas capable de se loger. C'est sûr qu'il a de la misère à se trouver une job. C'est une personne que la société l'a désorganisé.
Puis, tu sais, on va faire un parallèle complètement stupide. Là. Toi, Jeff, quand t'es parti en appart, t'étais dans un foyer assez douillet.
Ben oui.
T'as eu une enfance qui se respecte beaucoup plus que celle
qu'on
entend pour des usagers de la DPJ, on s'entend. Il y a plein d'affaires que t'as dû apprendre sur le coup.
C'est clair.
Il y a plein d'affaires que tu ne savais pas, toi.
Ben oui.
Imagine à quel point tu pars de loin quand tu n'as, un, pas été aimé à la hauteur de ce que tu es.
Ben oui.
Que tu n'as pas été encadré, parce que des fois, ils sont très aimés, mais ils ne sont pas encadrés parce que les parents, ben, ils n'ont pas ces ressources parentales-là. Ils ne savent pas comment être un bon parent, parce que des fois, c'est de père en fils, tu sais. C'est fascinant, là. Puis là, tu les envoies, puis tu leur dis, débrouille-toi du jour au lendemain. Pas d'argent.
Épouvantable.
Pas de salaire. Pas d'études. Pas de ressources sociales. Mm-hmm. Des fois, pas d'amis.
Faut pas se demander pourquoi ils s'en sortent pas par la suite.
Puis exactement.
Ce projet-là, qui est une merveilleuse initiative, pourrait recevoir une première cohorte en 2028. Donc, on parle quand même dans quelques années.
On va souhaiter que ça existe.
Si les choses réussissent à aller de l'avant. Là, la question à se poser, est-ce que ce projet-là pourrait devenir un exemple à travers le Québec si jamais ça s'implante bien puis que ça fonctionne? Vous voyez, M. Bernier, pour lui, l'important, c'est qu'on commence qu'on n'a pas une approche généraliste. Donc, il ne voit pas nécessairement son projet comme quelque chose qu'on doit implanter au Québec. Pour lui, l'approche doit rester spécialisée selon les jeunes.
Penser à une généralisation demain matin de pratiques comme celle-là dans les systèmes actuellement, moi, j'y crois pas. Ça, c'est un. Deux, est-ce qu'on n'est pas non plus à se dire, ben, il va falloir que les structures s'adaptent et se transforment pour être capables de répondre spécifiquement aux besoins de ces jeunes-là. Donc, peut-être que laisser de côté certaines pratiques généralistes pour en développer éventuellement des plus spécialisés, c'est sans doute quelque chose qui va être envisageable.
Quel bon point, se spécialiser chez les jeunes adultes.
Oui,
pas prendre en considération qu'à 18 ans, tu es autonome.
Puis selon les milieux, là, puis selon les régions, pouvoir mettre des ressources différentes aussi selon les besoins de la région. Pas dire, hey, ça fonctionne à Montréal, on va l'implanter au Saguenay. C'est pas les mêmes réalités, donc
non,
d'être capable de s'ajuster au fur et à mesure. Mais veux pas, ce qui bloque dans la réalisation de ce type de projet-là, forcément, c'est le financement, parce que ça a certains coûts. Présentement, on attend le financement du provincial. Puis pour vous donner une idée, là, on parlerait de quelques dizaines de millions pour construire les installations nécessaires, et par la suite, ce serait 231 000 $ par jeune que ça coûterait au cours des 3 années pour par la suite avoir un diplôme. C'est quand même certains coûts. Si on met ça en perspective dans la société, on évalue le coût d'un ancien jeune de la DPJ à, en moyenne, 750 000 $ lorsqu'il se retrouve dans la rue, les services sociaux par la suite. Il se retrouve sans diplôme, donc il finit par jamais travailler et payer d'impôts et justement contribuer à l'État. Ce qu'on pourrait faire si on prend ces jeunes-là qu'on investit par la suite, ils réussissent à avoir un diplôme, un travail, etc. Mais il faut avoir une vision sur le long terme pour ça, ce qui manque parfois au gouvernement, on va s'entendre. Je me suis par contre entretenu avec Gabriel Nadeau-Dubois également, qui est porte-parole côté éducation pour Québec solidaire. Et lui, il m'a dit qu'il était très optimiste que le gouvernement provincial allait embarquer dans le projet.
Tous les gouvernements cherchent des moyens de réduire l'itinérance. Et tous les gouvernements voient bien que ce qu'on fait en ce moment, ça ne marche pas. Donc moi, je refuse de baisser les bras. On va continuer à travailler avec les ministres concernés. C'est un projet qui ne demande pas d'argent neuf au gouvernement. Hein. C'est un projet qui va piger dans des enveloppes qui existent déjà. Donc oui, on est conscient que les moyens sont limités en ce moment, mais ça va nous coûter pas mal plus cher au Québec de s'occuper de ces jeunes-là une fois qu'ils sont dans la rue.
Moi, ce que je retiens, c'est au niveau économique, on est gagnant, puis au niveau social, on va être gagnant à 100 000 à l'heure.
Puis, c'est là-dessus que je vais faire du chemin, là, ce que tu dis, ce que lui vient de dire.
Ben oui.
Là. Un, c'est une priorité parce que c'est une roue qui tourne, même en éducation. Là, les enseignants débordés dans les classes, peut-être par des enfants qui sont désorganisés ou qui vivent des affaires à la maison. Puis je reviens toujours au sapristi de même point après la commission, Laurent, quand tu disais la communication. Je comprends qu'on se doit d'être discret puis respecter les vies hein, de ces gens-là puis de pas tout dire. Mais quand un agent, un intervenant de la DPJ a une relation avec l'enseignant de l'enfant, est capable de les suivre en communauté aussi avec les parents, avec... Au moins, tout le monde a l'information, puis on est capable de ne pas taper sa tête du jeune à une journée où il est désorganisé par n'importe quoi qu'il a vécu à la maison ou un nouveau centre d'accueil ou peu importe la complexité. Ça, c'est pas réglé, mais ça va régler dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie, dans l'itinérance, dans tellement de choses. La sécurité, parce qu'il y a des gens qui ne se sentent plus en sécurité avec l'itinérance.
Il faut revoir notre structure, parce que tu sais, je redonne mon expression, là, c'est une usine à fabriquer l'itinérance.
C'est
à
une
l'heure
bonne
actuelle.
Expression, j'ai l'impression.
Il faut vraiment revoir nos structures pour les aider. Rapidement, Matt, en terminant, est-ce que ça pourrait s'implanter en capitale nationale?
Oui, bien, reste à voir si le projet lui-même va voir le jour à Montréal, parce qu'on attend toujours la finalisation du financement de la part du provincial. Du côté du projet, on est toujours confiant que ça va venir avec l'arrivée de la nouvelle première ministre, peut-être que ça va s'accélérer. Du côté de la capitale nationale, il y a déjà certains programmes qui sont en place parce qu'on a une certaine obligation quand même d'accompagner ces jeunes-là. Visiblement, elle n'est pas toujours respectée, comme qu'on pouvait le noter justement dans la chronique du Soleil ce matin. On disait qu'il fallait garder les documents des jeunes de la DPJ durant 25 ans, donc jusqu'à l'âge de 43 ans. Puis que pour le jeune qui s'était malheureusement enlevé la vie à 23 ans, ben, on retrouvait déjà plus ces documents-là quand ça faisait 5 ans à peine. Donc, ces obligations-là ne sont pas toujours respectées. Par contre, je me suis entretenu avec Geneviève Larivière, qui est à la direction du programme Jeunesse au CIUS de la Capitale-Nationale. Puis elle m'explique que sans nécessairement faire le même projet que, par exemple, Agora Déclic, on a déjà certains programmes qui sont en place présentement. Par exemple, Zénith, qui est un programme de 108 logements sociaux et abordables, dont 31 logements sociaux et abordables qui sont réservés à des jeunes de la DPJ qui font la transition vers la vie adulte. Et elle me dit que pour l'instant, ce programme-là fonctionne très bien.
Tu sais, dans le Zénith actuellement, c'est un projet qui est fait avec l'OMH, mais on a du monde qui sont du communautaire, qui sont présents, qui emmènent leur couleur d'intervention. On a des intervenants de PQJ qui ont aussi qui appartiennent au service de la protection de la jeunesse, mais qui est quand même un service qui est volontaire pour les jeunes. Et on a des travailleurs de milieu qui sont là, puis on a beaucoup d'organismes du milieu puis qui sont présents. Fait que ça offre quand même une diversité pour les jeunes d'aller chercher le service qui leur répond en fonction de leurs besoins puis qu'est-ce qu'ils sont comme jeunes.
Très content de voir qu'il y a quelque chose qui existe en Capitale-Nationale. Maintenant, continuons de parler de cette problématique d'itinérance-là. On s'en va en campagne électorale dans quelques semaines. Il faut absolument que les partis politiques se positionnent pour trouver des solutions plus tangibles à l'itinérance, outre que de dire « Hey, vous savez, il y a la crise du logement. Hey, vous savez, le coût de la vie a augmenté. Hey, vous savez, c'est complexe. » Faut faire des actions concrètes. La courbe augmente bien trop en itinérance. Et surtout chez les jeunes. Rappelle-nous, combien de pourcentage de jeunes qui sortent de la DPJ s'en vont en itinérance?
C'est 35 % des jeunes de la DPJ non diplômés qui se retrouvent à la rue avant 21 ans.
Ça n'a aucun sens, aucun bon sens. Je peux pas croire que notre société bienveillante en est rendue là.
Et qu'on s'en rende compte juste là.
C'est ça. Après la pause, Donald Trump, on va jaser de lui en Jésus-Christ avec Rémi Villemur, notre
médecin.
Ben moi, j'ai vu Jésus.
Non, mais lui, il dit que c'est un médecin.
OK. Ouais. On va demander à Rémi, il l'a vu comment, lui. Dans quelques instants, vous le voir sans dehors.
Avec le prix de l'essence qui augmente...